Je vais demander, alors, en premier lieu, à François-Xavier De Vetter, hein, qui est professeur d'économie à l'IMT de Lille et au Clercé, et puis ensuite à Christine Jandel, qui est présidente de Colisée et de sa branche domicile Onella, de nous donner leur point de vue. On va commencer par vous, François-Xavier, en tant qu'économiste, peut-être comment vous analysez, avec quel recul on a aujourd'hui, pour comprendre les faiblesses économiques structurelles de ce secteur de l'aide à domicile.
Merci beaucoup. Effectivement, hein, on va avoir du mal à réagir immédiatement à la crise et à ce qui se passe, parce que nous, en tant que chercheurs, on est souvent dépendants des données, et ces données, elles mettent un certain temps à arriver. Donc, sur la crise elle-même, de manière spécifique, on pourra probablement donner des informations dans 2 ans. Alors, peut-être que ça correspondra au moment où la loi passera, mais on espère quand même que non. Au pire, ce sera au moment d'une nouvelle loi de modernisation du secteur, probablement. Juste avant de revenir, tu disais une sorte de face-à-face. Non, je ne pense pas qu'on est en face-à-face, hein, bien au contraire. Et puis, surtout, on parle de places tellement différentes l'un et l'autre, que forcément les discours peuvent être différents aussi. Et c'est ça, c'est juste un point d'intro que je voudrais dire. Moi, je parle d'une place très confortable qui est celui du chercheur. Je n'ai pas été confronté pendant la crise à des personnes en situation vulnérable à prendre en charge. J'avais des étudiants, des Zooms un peu compliqués à gérer, mais ce n'est quand même pas tout à fait la même difficulté. Alors par contre, la crise, tu nous invites à y réfléchir, enfin nous invite à réfléchir sur les difficultés structurelles du secteur. Et en réfléchissant à cette question, moi je pense qu'on peut revenir sur quatre ou cinq grandes questions posées par ce biais-là. La première, c'est celle du périmètre de ce dont on parle, la question de quel est le champ auquel on s'intéresse. Luc Broussy, en toute introduction, poser la question de savoir s'il fallait ou non faire 2 assises entre les établissements et le domicile, ben je pense que c'est à cette question-là, entre autres, qu'on est confronté, et à l'ensemble de qu'est-ce qu'est le bien commun du secteur. Toutes les structures ont été, l'ont régulièrement rappelé depuis 2 jours, confrontées à la question de comment prioriser et à qui fournir les services en priorité, et donc à sélectionner à qui on doit s'adresser. Et je pense que cette question-là, elle remet complètement en cause, par exemple, une politique qui était celle des services à la personne. On regroupait ensemble des choses qui étaient très, très éloignées les uns des autres. Là, on voit bien qu'en cas de crise, entre une personne vulnérable et une personne qui ne l'est pas, les choix vont très, très vite à faire. Et du coup, peut-être que si on se dit de manière structurelle, si le secteur est globalement en crise et en besoin de financement, bah, ça renvoie peut-être à une question, là aussi, quand il y a des financements publics très multiples, sur des services de confort d'une part, sur des services plus d'action sociale de l'autre, sur des resserrements et des réorientations des fonds publics qui pourraient peut-être donner un peu de marge à une certaine partie, celle qui est la plus médico-sociale des marges de manœuvre. La deuxième question, c'est, au-delà de la définition de ce périmètre, c'est quels acteurs on a et quels sont les acteurs autour de la table ou qui ont vocation à partager ces questions. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs possibles. Pour moi, et j'irai plus vite, mais je pense que dans les questions qui sont moins consensuelles qu'il n'y paraissent, il y en a une première, c'est quelle est la place du particulier employeur. On a vu que des rapports récents l'ont clairement remis en cause. Le rapport El Khomri, en posant la question de la nécessité de temps collectif, de fait, remet en cause ou précise que le modèle du particulier employeur n'est pas forcément adapté aux situations les plus fragiles. Quels acteurs ? C'est aussi la place de la lucrativité ou la place du profit dans un secteur largement financé par fonds publics. Je pense que c'est une question qui est distincte de celle du statut, parce que entre certaines associations, certaines entreprises, la question du statut purement juridique est très fragile maintenant et n'est plus forcément celle qui est la plus déterminante. Les entreprises à mission, les ESUS, etc., ont mis les bénéfices et le profit entre parenthèses ou au moins sous contrôle, mais en tout cas la place du profit dans un secteur médico-social est posée. La troisième question, c'est celle du niveau de qualification. On voit bien que dans les organisations nouvelles qui émergent, type Inspiration Burtzorg, etc., Burtzorg, c'est formidable, mais c'est un système sur des soins infirmiers, c'est du Bac plus 3. On voit bien que une aide à domicile ou une AVS ou une intervenante à domicile, c'est quoi ? C'est du niveau 5, c'est pas de qualification du tout, c'est du niveau 5, c'est du niveau Bac, c'est du niveau au-delà du Bac. un diplôme comme le diplôme d'aide-soignant, c'est censé être du niveau 5, 70% des gens qui l'acquièrent ont déjà un bac. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre ce dont on a besoin et ce que l'on rémunère. Et puis du coup, et ce sera le dernier point, c'est quelle prise en compte des temps de travail et des rémunérations. Le constat d'une sous-rémunération, de sous-valorisation est largement partagé, inutile d'y revenir. À partir de là, on a deux façons de l'intégrer, soit on paye plus à l'heure, soit on paye plus d'heures. C'est deux façons de voir la même chose, j'en dis pas plus pour le moment, on y reviendra peut-être, mais ça renvoie à un mot de conclusion, c'est comment on finance derrière, est-ce qu'on reste sur un tarif à l'heure, ou est-ce qu'on reste, ou on passe à des formes de dotation globale via des CEPOM et autres. Là aussi, je pense qu'au-delà de l'apparence parfois de consensus, on a une vraie ligne de partage et que la crise révèle très très largement.
Très bien, merci beaucoup François-Xavier. Christine, je te passe la parole de suite. Il y a peut-être des points en particulier sur lesquels tu veux réagir. C'est vrai que ça, dans les propos de François-Xavier, il a introduit ça sur le périmètre du secteur, le fait de pouvoir avoir de la complémentarité entre différents secteurs à l'intérieur du grand âge. C'est la stratégie de Colisée et Donella. Puis il y a peut-être d'autres points sur lesquels tu voulais réagir, notamment sur la sous-valorisation du secteur, des rémunérations qui sont aussi un frein au développement de cette activité.
Merci beaucoup. Oui, je commencerai d'abord par une introduction. Effectivement, merci de m'avoir invité aux Assises du domicile. Cette année, paradoxalement, je ne suis pas allée aux Assises des EHPAD. Alors, Luc m'en vaut beaucoup, mais ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que je pense sincèrement que le vrai sujet, il est sur le domicile. Encore faut-il savoir ce qu'on appelle le domicile, parce que c'est quand même un secteur assez pluriel, on va le qualifier comme ça. Je ne vois pas l'intérêt, moi je vais être un peu provocatrice, mais je ne vois pas vraiment l'intérêt d'une loi en fait grand âge sur les EHPAD, très honnêtement. Alors, bien sûr, nos établissements doivent être mieux dotés, bien sûr, ils doivent être mieux surveillés, bien sûr, la qualité de service doit être mieux contrôlée, bien sûr. Le modèle peut être perfectionné, mais le modèle a le mérite d'exister. Il se partage d'ailleurs assez légitimement entre trois secteurs, public, associatif, privé, commercial et non pas lucratif, cher ami, sinon ça va devenir un vrai face-à-face, qui coexistent et qui ont d'ailleurs plutôt bien coexisté, ont été plutôt solidaires pendant la crise et qui ont montré toute leur utilité. Parce qu'entre nous, si chacun des opérateurs avait dû emmener à l'hôpital, aux urgences du coin de la rue, l'ensemble des résidents touchés par le corona, je ne sais pas comment on aurait soigné les plus jeunes dans ce pays. Donc ça, j'espère qu'un jour, quelqu'un reconnaîtra et se rendra compte finalement qu'on a été plutôt une partie de la solution qu'une partie du problème. Avec un peu de recul, d'ailleurs, je serais curieuse de voir, et vous le disiez tout à l'heure, ça sera le deuxième élément de réaction, c'est qu'effectivement, compter les morts tous les soirs, je ne sais pas si c'était une très bonne idée, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de continuer, je pense que c'est plutôt anxiogène qu'autre chose. En plus, parfois, il y a des erreurs de comptage, après tout, ça arrive. Hein. Ce qui fait des grandes communications le lendemain qui sont complètement erronées. Voilà, donc j'ose espérer que là aussi, on arrivera à prendre un peu de recul et à examiner, y compris les sujets de mortalité, de surmortalité, avec un petit peu de tranquillité dans les quelques mois qui viennent, voire dans les quelques années qui viennent, pour comparer finalement qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc moi, mon message, ça sera un peu on se calme et on regardera dans un rétroviseur dans quelques temps ce qui permettra peut-être de progresser encore davantage sur le secteur des EHPAD. Donc la loi sur les EHPAD, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, effectivement, le secteur du domicile, ben, je suis désolée de le dire, mais il n'existe pas aujourd'hui. Il y a du particulier employeur, du mandataire, du prestataire, trois manières d'exercer sur le plan juridique, trois statuts, vous l'avez dit. Il y a de l'HAD, du SIAD, du SAN, du SPASAN. J'oublie forcément quelque chose. Alors là, ici, on est tous des spécialistes, mais si vous sortez sur le trottoir et que vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que c'est que de l'HAD, il va vous dire ben, on m'envoie un chirurgien à domicile, c'est de l'hospitalisation à domicile. Pas de chance, c'est une infirmière. Un SIAD, c'est du service infirmier à domicile, on m'envoie une infirmière. Ben non, pas de chance, c'est une aide-soignante. Puis alors un SAD, ça peut être du jardinier jusqu'à l'auxiliaire de vie qualifié. Ah, donc c'est un secteur qui effectivement... Alors, bien sûr que le bénéficiaire doit pouvoir garder un choix. J'ai bien vu tous les débats qui étaient intervenus quand on a dit le particulier employeur pour les personnes fragiles, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Moi, j'en suis intimement convaincue. Et en face, les bénéficiaires de répondre oui, mais on doit avoir le choix d'exercice et pouvoir choisir la qualité de l'intervention. Je l'entends aussi, ça a une limite. C'est quand on demande en face à mettre un financement. Par définition, si on commence à vouloir installer un système de financement un peu construit, il faut que chacun accepte de rentrer quand même un minimum dans un cadre, que ce soit les opérateurs, les intervenants, ou bien les bénéficiaires qui profitent du service et du financement. Ou sinon, on passe dans un système ultra-libéral où chacun fait ce qu'il veut, mais je pense qu'aucun d'entre nous dans cette salle, et voire même peu de Français, ont envie de rentrer dans cet extrême-là. Donc voilà, la loi, c'est vrai, si tant est qu'elle arrive un jour, après une nouvelle consultation, si j'ai bien compris, qu'on appelle le LAROC maintenant, c'est ça ? Donc si on arrive à s'en sortir un jour des différents rapports qui s'empilent sur nos différents bureaux, la loi, si elle devait intervenir, et moi c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, et je l'ai écrit à plusieurs reprises, je pense que c'est fondamental qu'elle intervienne rapidement sur le secteur du domicile. Alors, je vais vous faire sourire, mais quand on est rentré en tant que Colisée, nous, on est plutôt une entreprise qui gère et qui accueille des personnes et qui les accompagne plutôt en établissement, dans différents pays d'Europe et jusqu'en Chine. Donc, le domicile, c'est vraiment quelque chose, honnêtement, que je ne connaissais pas du tout. On a voulu rentrer en 2016 avec la conviction forte qu'à la fois l'évolution de la démographie dans les 10 ou 15 années qui viennent, ça a été bien mis en évidence par un think tank que connaît tout le monde ici, et plutôt sur la population de 75 à 85 ans, qui a celle qui a besoin d'être accompagnée à domicile, et que l'évolution forte des personnes âgées de plus de 85 à 90 ans arrive un petit peu plus tard. Donc on est plutôt en 2030-2040 quand on regarde un peu les courbes de démographie. Donc quelque part, on se dit que dans les 10 à 15 ans qui viennent, il nous fallait étendre nos services pour pouvoir adresser une population plus large. On est quand même un chef d'entreprise, donc on regarde quand même un petit peu où se situent les besoins pour essayer d'y apporter des réponses. Rentrer dans ce secteur en 2016, moi j'avoue que j'ai rien compris. J'ai pas compris. On m'a dit, tu dois rendre une prestation, mais on va pas demander au bénéficiaire ce qu'il veut. On va d'abord lui expliquer qu'il faut qu'il aille voir quelqu'un au conseil général qui va lui faire un plan d'aide. Alors, c'est quoi un plan d'aide ? Alors, c'est un plan non seulement qui définit un montant d'argent qui est donné au bénéficiaire ou au service, peu importe, mais qui, en plus, prévoit une manière d'intervenir. C'est-à-dire qu'il dit c'est une demi-heure le matin, puis un quart d'heure le soir, et puis à nouveau le mercredi, vous repasserez. Je vous avoue que j'ai regardé ça avec un œil un peu suspect. Puis ensuite, on m'a dit, mais finalement, le plan d'aide, on ne l'utilise pas toujours parce qu'on n'y arrive pas. Donc le plan d'aide, il n'est pas saturé. Je me suis dit, mais c'est quoi encore ce truc ? Donc il y a quelque part un plan d'aide qui est donné, mais finalement, on ne l'utilise pas parce que pour plein de raisons. Voilà. Puis après, on m'a dit, mais tu vas salarier des gens, mais alors tu n'es absolument pas sûr de pouvoir les inscrire à un moment sur un planning, puisque par définition, de toute façon, ce n'est pas toi qui définis l'intervention des intervenantes en plein accord avec les besoins de ton bénéficiaire. C'est quelqu'un, quelque part, pour lequel j'ai beaucoup de respect, dans un service de conseil général, qui décide, bénéficiaire par des bénéficiaires, quelle sera la prestation qui va être rendue. Et puis après, on m'a dit, mais le prix, en fait, oui, tu peux le fixer librement, mais tu comprends, il y a l'APA. Donc l'APA, c'est 17 euros de l'heure dans la Creuse. Bon, je ne sais pas si c'est ça. 19 euros dans les Hauts-de-Seine. Et puis 23 euros, je ne sais plus quel est le département qui paye le mieux dans ce pays. Vous savez ça mieux que moi. Mais bon, l'Isère ne paye pas trop mal, je crois, de mémoire, parce que je suis née à Grenoble. Je suis née dans le même hôpital que celui où exerce Olivier Véran. Vous vous rendez compte, c'est quand même un truc exceptionnel. C'est bon signe. Ouais, je ne sais pas pour qui. Pour lui, sûrement. Et donc, bref. Et là, on m'a dit, bah ouais, mais tu comprends ton prix. Il faut quand même que tu le fixes en fonction du montant de l'APA. Je m'attendais. Moi, c'est comme l'allocation logement. Je veux dire, j'ai droit à un logement. Et puis après, on me verse une certaine allocation. Mais le loyer, il n'est pas forcément calé exactement au montant de l'allocation logement. Ah oui, mais tu comprends, l'assistante sociale du département, elle ne va pas t'envoyer un client si tu factures 21 euros alors que l'APA est à 19,50 euros. J'ai mis un certain temps avant de comprendre tout ça. Très, très objectivement, ça va un petit peu mieux grâce à l'équipe qui a bien progressé sur le sujet. Et je trouve que ce modèle est à la fois extraordinairement compliqué. Franchement, le bénéficiaire ne comprend pas et ses proches ne comprennent pas forcément comment y rentrer. C'est pas un système qui flèche particulièrement l'argent public sur les gens qui en auraient le plus besoin. Et le plus grave, c'est que la vraie variable d'ajustement, si on est honnête, c'est le salarié au bout du bout. C'est une variable d'ajustement à la fois sur le niveau de salaire. Alors, si Myriam El Khomri était là, je lui dirais qu'elle arrête de dire qu'on paye les gens en dessous du SMIC, parce que ça, c'est quasiment du pénal. Mais c'est vrai qu'on a quelques conventions collectives que je ne citerai pas, dans lesquelles il y a encore des coefficients en dessous du SMIC. Mais je pense qu'on paye tous quand même le salaire minimum dans ce pays. Mais c'est vrai à la fois du niveau de salaire, mais c'est vrai aussi de l'organisation du travail. On en parle souvent avec Daphna, et on l'a vu pendant la crise, la manière dont on doit faire courir, si je peux me permettre de parler ainsi, alors soit dans des bus et des RER à Paris ou des métros, soit en voiture ou en vélo, dans le meilleur des cas, dans d'autres régions de France, la manière dont on doit faire courir avec des tournées qui sont pas si facile que s'organiser. Je suis désolée de parler de tournée, mais finalement, c'est un peu ça quand même, hein, quelque part. Hein. Pour essayer de maximiser les interventions, pour remplir quelque part le revenu maximum et pouvoir assurer une certaine sécurité à nos salariés, un minimum de temps de travail et un minimum de rémunération, c'est un casse-tête. Enfin, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi pour chacun d'entre vous qui êtes dans la salle. C'est un casse-tête infernal. Et je pense que ne parler que... C'est bien sûr que la rémunération est importante, mais ne parler qu'à la fin de la rémunération en disant il faut augmenter la rémunération pour pouvoir trouver du monde et rendre des meilleurs services, oui, mais il faut aussi se demander comment on alimente par le haut la solvabilisation de ce secteur. Faire en sorte que les bénéficiaires qui en ont vraiment besoin soient solvabilisés au maximum, que ceux qui en ont moins besoin, je sois désolée de le dire, mais utilisent une partie de leur patrimoine ou de leurs ressources pour financer leurs besoins. C'est pas parce qu'on a plus de 65 ans que tout d'un coup on doit pouvoir se faire entretenir son jardin par de l'argent public, en étant un peu caricatural, et je vais l'être un peu beaucoup aujourd'hui, mais certains me connaissent, c'est un peu mon habitude. Voilà, donc je voudrais pas qu'on restreigne, et c'est un peu ma crainte quand je vois le Ségur de la Santé, les discussions qu'il y a en ce moment, qu'on restreigne la discussion à « il suffit d'augmenter les rémunérations et on va pouvoir améliorer de manière magique la qualité des interventions et l'accompagnement des personnes âgées dans ce pays. » Et enfin, dernière chose, et dernier point de un peu d'agacement, je dois dire, pour moi, et même au-delà, les EHPAD ont été beaucoup critiqués parce qu'effectivement, on a fermé nos établissements pendant la période de crise. On a isolé parfois les résidents, on les a isolés en chambre. Personne ne s'est trop demandé ce que devenait la population âgée, mettons de plus de 75 ans, peu importe où est-ce qu'on met quelque part la limite, pendant la période de, j'ai employé un anglicisme, donc je cherche, de confinement, merci, de confinement qui a touché tout le pays, isolé à son domicile, parfois loin de sa famille, personne n'en a parlé. Alors nous, on nous a expliqué qu'on faisait mourir les vieux parce qu'on les avait isolés dans leur chambre. Accessoirement, nos équipes se sont défoncées pour faire des animations dans les couloirs, des animations individuelles dans les chambres, organiser du lien social, mettre en place du digital, assister les résidents pour qu'ils puissent communiquer avec leur famille. Personne, mais personne, n'a parlé de manière très directe de l'isolement de toutes ces personnes âgées à domicile qui, pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, n'ont pas vu passer grand monde chez elles. On a tous déprogrammé, je pense, beaucoup d'activités de confort dans nos services. Qu'est-ce qu'on appelle le confort? Où est-ce que se limite le confort et l'accompagnement? Je ne sais pas exactement, mais on a tous été obligés de déprogrammer un certain nombre d'actions. Nous, on a continué à intervenir. J'ai demandé à l'équipe de pas faire de chômage partiel du tout, ce qui a été une quadrature du cercle sur le plan économique, mais il nous semblait qu'une entreprise peut être commerciale et citoyenne à la fois, c'est pas interdit, et que d'autres secteurs d'activité avaient plus besoin que nous des subventions, mais pour autant, en ce qui concerne Onella, c'est à peu près 30% des heures qui ont été déprogrammées. Pour en avoir discuté avec pas mal de nos concurrents, je crois qu'on est à peu près sur les mêmes ratios, donc ça veut dire que pendant quand même quelques semaines, voire quelques mois, 30% des bénéficiaires qui habituellement voyaient passer quelqu'un chez eux n'ont vu passer personne. Alors les aidants ont certainement pris le relais en partie, je suis pas sûre qu'ils l'aient prise de manière aussi significative que ça. Voilà, quelques au débeauté, quelques réactions et quelques éléments nouveaux.
Merci Christine. François-Xavier, je te repasse la parole. Christine est revenue là-dessus, notamment dans le début de son intervention. Est-ce qu'on n'a pas un problème de modèle économique, d'un secteur qui est trop éparpillé, avec ses différents modes de réalisation, avec un système de financement qui n'est pas très clair, et tu l'as également évoqué. Quels seraient les grands axes de réforme vraiment du modèle économique de l'aide à domicile pour réussir à, je dirais, régler le problème peut-être à la source plutôt qu'en palliatif, en remettant de l'argent crise après crise?
Oui, le problème de financement, il est majeur. Juste un mot avant sur les rémunérations, et ça fera le lien. Myriam El Khomri va un peu vite quand elle dit que les salariés sont sous le SMIC, et en même temps, elle a raison d'une certaine manière. 80% des salariés du secteur sont sous le SMIC mensuel. effectivement, ce n'est pas du SMIC horaire, c'est sous le SMIC mensuel. Et là, c'est 80% des salariés du secteur. Et ce qui fait vivre à la fin du mois, c'est un chiffre mensuel. Ce n'est pas un salaire horaire. Donc l'augmentation du salaire horaire, effectivement, il est à la fois ultra vital dans l'immédiat, et c'est les questions d'avenant, etc., au niveau de la branche. Mais ce n'est pas la clé centrale du problème, c'est le financement d'un mois de vie, d'un mois de travail. Et on sait très bien que l'immense majorité des aides à domicile, si elles sont payées à temps partiel, travaillent à temps plein. Je pense que c'est les constats qu'on peut faire enquête après enquête. L'emprise du travail sur la journée ou sur la semaine, c'est du temps plein. Simplement que ce qui est payé, c'est qu'une partie. Et donc ça fait lien avec ta question sur le modèle économique, qui effectivement, tant qu'on reste sur une tarification strictement horaire, on est confronté à une vraie, vraie, vraie difficulté. Mais on a deux façons de voir les choses qui, l'une et l'autre, peuvent résoudre le problème. Soit on reste sur, par simplification ou par histoire ou par facilité, sur un modèle horaire, mais alors à ce moment-là, on doit savoir ce qu'une heure veut dire. Moi, je suis universitaire, je suis payé quelque part pour un service annuel d'heures d'enseignement face-à-face pédagogique. C'est 192 heures annuelles de face-à-face pédagogique. Je n'ai pas l'impression de travailler 192 heures par an, mais chaque heure décomptée me vaut en quelque sorte 4 heures. Ça, c'est ma fonction enseignement, un mi-temps, et l'autre mi-temps, c'est de la recherche. Donc, il y a tout un calcul plus ou moins savant pour dire bah, on part d'une heure pour voir ce que ça vaut au final. Et donc, si c'est ça, une heure d'intervention, c'est en fait une heure et demie. Ou 1h20. Et donc, derrière, des tarifications qui vont bien au-delà des 20 et quelques auxquels on est actuellement, mais quelque chose, et toutes les études de coûts le montrent, plutôt 25, voire entre 25 et 30, si on prend en compte l'ensemble des coûts nécessaires sur l'amélioration du service et des conditions de travail. Ou alors, on quitte ce modèle un peu bloquant de la tarification horaire, et on bascule sur une dotation globale, et on bascule sur des CEPOM qui permettent ça. Mais ça nécessite une vraie confiance. Le mot a été prononcé pas mal de fois, y compris sur la table ronde juste avant. Une confiance a priori, pas une confiance a posteriori. Effectivement, on fait confiance aux structures, et les structures font confiance à leurs salariés, etc., etc. Ça demande beaucoup de changements. Surtout, cette confiance, elle renvoie du coup aussi à si j'attribue des sommes sur fonds publics, si on s'est trompé, ben on les récupère. Si on en a eu trop, on les récupère. Si on n'en a donné pas assez, on complète. C'est ce qui se passait un peu dans l'histoire de la loi 2002, quelque part. C'est là où, si on récupère les bénéfices, c'est là où, je suis d'accord, les entreprises ont pleinement leur place, les entreprises à mission, elles assument d'ailleurs cette situation-là. Ce n'est pas une question de statut, les entreprises ont toute leur place probablement, c'est une question de place du lucratif. Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose que le statut d'entreprise. Les entreprises ont leur place, faire des bénéfices, faire des profits sur un secteur financé quasi essentiellement, enfin essentiellement sur fonds publics, c'est autre chose.
C'est là où je ne suis pas d'accord. Alors je vous rejoins complètement sur le côté tarification horaire égale absence de confiance. Et ça, c'est fort dommageable parce que, au-delà de l'absence de confiance, ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur des réseaux constitués pour optimiser les ressources qu'elles auraient et rendre le meilleur des services. Enfin, ça, je trouve ça vraiment à la fois par des outils digitaux, à la fois par des outils de formation de leurs équipes, d'organisation des plannings, tout ce que vous voulez. C'est vraiment quelque chose contre lequel moi je lutte depuis 3 ou 4 ans, cette tarification horaire, avec beaucoup de difficultés à être entendue, il faut être honnête, par la plupart du temps les conseils départementaux, hein, qui ont l'impression que s'ils lâchent leur tarification horaire, effectivement, ils n'auront plus aucune main mise sur leur service. Bon, d'abord, ils ne se font pas confiance à eux-mêmes, hein, parce que ce n'est pas très compliqué à organiser. Et effectivement, c'est un manque de confiance des différents services qui est complètement dommageable. Une fois qu'on a mis ça de côté, je voudrais juste revenir, parce que je vous suis complètement, hein, moi, je vous suis complètement sur le parallèle avec la loi de 2002, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans le domicile comme on était effectivement au début des années 2000. Et je peux vous assurer, moi qui ai commencé, parce que mine de rien, ça fait longtemps que je suis dans ce secteur, quand j'ai commencé dans les EHPAD, c'était des hôtels infirmières, hein, on avait un hôtel et puis on recevait des infirmières, puis elles venaient pas, les kinés venaient pas, enfin bon, on essayait d'organiser ça au mieux, puis sont arrivées les premières sections de cure médicale qui sont un peu l'équivalent des premiers financements qu'on voit dans les CEPOM aujourd'hui, on dit on va commencer à donner des enveloppes pour commencer à donner des soins de manière un petit peu structurée, et donc on avait un hôtel avec un petit bout de quelque chose, puis bon après on est passé dans les conventions tripartites, et maintenant on est arrivé à une vraie maturité. Je peux vous assurer que moi pour travaillé dans d'autres pays en Europe, la maturité du système français, elle est remarquable. D'ailleurs, si on regarde les études qui sont parues sur les niveaux de mortalité dans les établissements spécialisés dans différents pays, on se rendra compte, j'espère un jour là aussi qu'on nous rendra grâce, du fait que c'est quand même plutôt en France que le système a bien tenu dans les établissements de personnes âgées, et de manière très très significative par rapport à ce qu'il a pu se passer dans un pays comme la Belgique, mais qui est quand même pas un petit pays pauvre, jusqu'à preuve du contraire, ou l'Espagne ou l'Italie, voilà, et il y aurait d'autres comparaisons. Alors je mets l'Allemagne de côté, mais pour plein d'autres raisons, la France s'est extraordinairement bien comportée dans ses établissements de personnes âgées, et c'est pas un hasard, c'est parce qu'effectivement ce système est quand même construit, structuré, il lui reste encore plein de progrès à faire, on est complètement d'accord, mais c'est pas un hasard. Bref, donc aujourd'hui on en est au point où un peu des sections de cure médicale à l'époque dans les EHPAD, donc encore faudrait-il aller un cran plus loin, mais pour ça il faut effectivement qu'on arrive à contractualiser sur quelque chose qui soit une enveloppe large et qu'on fasse confiance aux services pour être capable de s'organiser. Et puis ceux qui seront bien organisés, alors c'est là où je ne vous rejoins pas tout à fait, ceux qui sont bien organisés pourront effectivement mieux utiliser l'argent public, ceux qui le sont moins bien l'utiliseront moins bien, et puis chacun s'y retrouvera à la sortie. Deuxième élément sur lequel je vous suis un peu moins bien, c'est que vous partez du principe que tous les services à domicile doivent être financés par de l'argent public. Mais non. L'entreprise, elle a aussi sa place. C'est exactement ce qui se passe d'ailleurs en établissement sur la partie de la population française qui a les moyens, je suis désolée, de subvenir à ses besoins en vieillissant. Enfin, à un moment donné, on a collé le service à domicile au système de l'APA. On n'arrive plus à s'en décoller. On n'arrive plus. C'est un truc de fou. Et je trouve que l'entreprise, au contraire, l'entreprise privée, si elle peut venir en complément de services pour adresser cette part de population et prendre également sa part de population dans un secteur donné, avec ou sans marge, peu importe, on s'en moque. On ne fait pas de marge sur l'argent public qui nous est donné dans les EHPAD. Et pendant des années, on a rendu au centime près. Et d'ailleurs, vous le citiez vous-même, au centime près. On a passé des heures à compter combien de centimes on nous avait donné sur un exercice et combien on devait en rendre au mois d'avril de l'année d'après. Aucun problème pour appliquer ce genre de choses sur le domicile. Et chacun aurait sa pierre à apporter à l'édifice. C'est là où, voilà, la place du commercial. Moi, dans ce secteur, je suis très à l'aise, sous réserve que l'argent public aille aux personnes qui en ont le plus besoin, que cet argent public soit extrêmement contrôlé. Et c'est notre intérêt à nous aussi, parce qu'il y va de notre réputation d'entreprise sérieuse. Et que s'il y a de l'argent privé qui peut être drivé vers des clients qui ont envie de payer un autre type de service et qui ont les moyens de le faire, why not ? Ça permettra d'être encore plus focalisé sur la partie de la population qui en a besoin.
Merci Christine. François-Xavier, peut-être une réaction là-dessus. Alors on ne vous mettra pas d'accord sur la place du profit dans le secteur, mais peut-être aller un peu plus loin sur cette question du bouclage financier entre les subventions publiques et puis la partie privée. Et puis ce sera votre mot de conclusion. Christine pourra conclure également. Et puis ensuite, on a Michel Delaunay qui nous attend en visioconférence pour justement une conférence de conclusion de ces assises. Allez-y.
Effectivement, c'est le débat pourrait durer longtemps sur cette question-là. On a un point d'accord très très fort, c'est qu'il y a certaines missions qui nécessitent des fonds publics et qui doivent les avoir pleinement et entièrement, et puis d'autres activités, d'autres missions qui relèvent du confort, quels que soient les termes qu'on utilise derrière. Et là, il y a une vraie clarification dont on peut attendre. Pour rappel, les exonérations liées au CESU pour les services hors personnes âgées, hein, vraiment pour les actifs en situation de pleine possession de leurs moyens, c'est 2,5 milliards à peu près d'euros annuels. C'est à peu près ce dont le secteur a besoin pour se moderniser sur le plan des conditions salariales. Donc voilà, sur ce point-là, on est pleinement d'accord. Là où on a peut-être un petit désaccord, c'est sur la liberté tarifaire et ce que ça implique. C'est vrai que théoriquement, on pourrait espérer qu'un partage se fasse et que voilà, il y a un socle commun à tous, et puis ceux qui peuvent payer plus auront plus. Je pense que c'est possible pour certaines activités, le jardinage, etc., peut être facilement mis de côté, on est d'accord. On voit bien que dans les EHPAD, par exemple, on a un marché qui se dédouble et des inégalités territoriales et d'accès social extrêmement important. Les EHPAD privés font assurément un très bon travail, mais ils sont en moyenne 40% plus chers que les EHPAD publics ou associatifs. Ils ne sont pas présents ou très peu en zone rurale. Ils sont très concentrés sur certaines zones. Ils ne sont pas accessibles à tous. Ils facturent certains frais supplémentaires à tous, genre le linge, etc. Et donc, vous dites, on ne fait pas de bénéfice sur les fonds publics. Sur les fonds publics, non, mais sur la partie hébergement, oui, et c'est normal, c'est votre rôle, sauf que c'est les mêmes populations. Donc la question, elle doit être posée, je pense, aux Français, effectivement. Est-ce qu'on veut un service, en quelque sorte, un peu à deux vitesses, avec un service pour tous, qui peut être de qualité, et puis pour ceux qui veulent plus, mettre plus, ou est-ce qu'on veut un service gratuit, dans le cadre d'un service social qui est un peu différent. Voilà, c'est des questions qui se posent à l'éducation également. C'est des questions notamment dans l'enseignement supérieur. On en est pleinement. Voilà, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans une école d'ingénieurs qui était gratuite. Aujourd'hui, elle a 4000 euros par an. Elle est publique, hein, pour autant, mais on voit bien que c'est des questions d'égalité, de justice sociale. Je finirai comme mot de conclusion avec un tout petit point d'optimisme. Je me dis qu'on pourrait, on peut imaginer que dans les mois à venir, on ait trois éléments qui apparaissent. Genre une loi qui réaffirmerait la dimension médico-sociale du secteur et de son nouveau périmètre ou de son périmètre, qui développerait des financements à travers soit une revalorisation de l'APA, soit un développement des dotations globales, et puis où on aurait des acteurs économiques qui en profiteraient, des employeurs qui en profiteraient pour renforcer une convention collective et créer un grand accord de branche, par exemple, assez favorable aux salariés. Et là où je suis optimiste, c'est que statistiquement, sur la base d'un échantillon d'une seule situation, cette convergence de trois réformes se produit 4 ans après que la France soit championne du monde. Donc ça a été en 2001-2002, après 98. Là, on l'a été en 2018. Je pense que normalement, la science nous dit que ça devrait se produire.
Vous imaginez...
C'était assez inattendu comme conclusion. Le face-à-face entre vous a quand même lieu au moins en partie.
Ouais,
il y a peut-être quelques éléments sur lesquels tu voulais
Vous imaginez une finale de Coupe du Monde avec une jauge à 1000 personnes au Grand Stade. Ce serait une tristesse absolue. On va s'éviter ça, j'espère, en tout cas. Non, mais moi, je suis comme vous. Hein. Je suis très optimiste, d'abord, parce qu'il ne faut pas oublier que je pense que cette crise du Covid doit nous alerter sur le fait qu'il est urgent de réconcilier les générations entre elles. Une fois qu'on a passé tous ces sujets de est-ce que l'entreprise a sa place, est-ce qu'elle l'a pas, etc. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus préoccupée par le fait que nos jeunes générations vont avoir énormément de mal à rentrer sur le marché du travail. Je pense que j'apprends rien à personne. Qu'elles ont vécu des moments extrêmement difficiles entre les périodes, que ce soit les périodes d'attentats, hein, les périodes de confinement aujourd'hui, le fait que leur vie sociale soit restreinte, et qu'on leur demande, et c'est tout à fait légitime, de protéger quelque part la partie la plus âgée de la population. Moi, j'ai personnellement ma plus grande préoccupation aujourd'hui, ce serait plutôt comment on évite cette fracture entre les générations. Voilà. Au-delà de la fracture sociale, je pense qu'on est en train de rentrer dans un vrai risque de fracture générationnelle. Alors, c'est très gentil de nous parler de l'intergénérationnel quand on emmène les enfants des maternelles dans les EHPAD, mais je pense que ce n'est pas ça qui va gérer la situation. Moi, je verrais dans cette loi, franchement, un moyen de retrouver une solidarité entre les générations. D'abord parce que ce secteur est un formidable créateur d'emplois. Alors, peut-être sous-valorisé, sous-payé, sous-organisé, tout ce que vous voulez, mais il reste au bout du bout un formidable secteur de création d'emplois. Or, ces emplois ne sont pas délocalisables. Ils peuvent être plus qualifiés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils peuvent faire l'objet de promotions à l'intérieur des différents services, des passages entre établissements, domicile, jusqu'à l'achat des techniques, peu importe. Mais le soin, le care au sens large, offre quand même tellement d'opportunités que franchement, on peut y développer une carrière de manière intéressante. Je pense que si cette loi pouvait apporter un souffle, ce serait plutôt ce type de souffle en disant ensemble, on doit préparer cette transition démographique parce que bien sûr, il y a une transition écologique, environnementale, j'en suis parfaitement consciente, mais on a une deuxième transition à vivre ensemble qui est une transition démographique. J'espère que cette loi portera, si elle intervient un jour, j'espère que cette loi portera ce souffle-là de manière plus long terme que la discussion du statut qui honnêtement n'est pas une fin en soi mais un moyen d'arriver. Et puis dernière chose, je me permets de dire moi aussi je rêverais que tout soit gratuit. Sauf qu'on est en train de s'emmêler, si on se retourne là, on a des tombereaux de dettes qu'on va laisser quand même à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors soit on appuie sur le bouton inflation, on actualise tout ça et dans 15 ans c'est plus un problème. Mais je pense que ça pourrait générer d'autres tensions. Soit, quelque part, on trouve des solutions qui, avec un partenariat équilibré entre de l'argent public et de l'argent privé, permet d'éviter de réemmener encore des tombereaux de dettes pour les 15 ou 20 ans qui viennent. Voilà, il me semble que cette crise du Covid doit aussi nous alerter un tout petit peu là-dessus. Mais je suis comme vous extraordinairement optimiste et je pense qu'on a la chance d'être dans un secteur qui, encore une fois, peut aider toutes les générations à se réconcilier sur le plan économique et social pour les 30 ans qui viennent.
Voilà. Merci beaucoup Christine Jandel, François-Xavier Devetter, on peut les applaudir.